Roulement de tambour, à rêver. Ah, si on rêve pas, on... Je vais pas dire on fait pas grand-chose, mais... On réduit nos actions, on réduit ce que l'on fait, on réduit beaucoup de choses si on n'en rêve pas. C'est beau de rêver, c'est beau de rêver grand, plus grand que nous.
Bonjour. Des papiers, des mots, un invité et une histoire à raconter. Voilà le podcast des petits papiers. Il a grandi du côté de Lyon, commencé à 7 ans par le karaté et la boxe avant de rencontrer les arts du cirque et le hip-hop. Et puis, à partir de ses moyens d'expression, il a créé son univers et un art où la rencontre des genres a pris tout son sens. Une première compagnie, Acrorap, en 1989, et quelques années plus tard, la naissance de Kefig, qui existe encore aujourd'hui. Kefig, ça veut dire cage en arabe et en allemand. Une cage, symbole d'enfermement qu'il refuse et dont il s'extrait à travers son art, brisant les codes et repoussant les barrières, en devenant par exemple directeur du Centre chorégraphique national de Créteil-Val-de-Marne, où il restera 13 ans. Dit comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais pour un chorégraphe qui vient du hip-hop, ce n'était pas rien. Aujourd'hui, le chorégraphe a monté 32 créations avec Kefig, plus de 4000 spectacles proposés sur scène dans 65 pays du monde. Et ça n'est certainement pas fini. Bonjour Mourad Merzouki.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va bien.
Oui. C'est vrai que c'est impressionnant comme parcours de se dire que 4000 fois vos spectacles ont été joués sur scène. Ça vous fait quoi ? Vous y pensez parfois ?
Non, j'y pense pas, mais c'est vrai que c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Non, j'y pense pas parce qu'on est quand même dans des métiers qui où on a toujours cette inquiétude où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, on s'accroche, on rêve, on crée. Je regarde pas derrière. Mais c'est vrai que c'est formidable. C'est formidable pour une danse qui était à l'époque regardée comme une danse éphémère.
Si ça s'arrêtait demain, qu'est-ce que vous pourriez faire?
Oh, j'archiverai toutes les photos que j'ai faites pendant toutes ces années.
Ce serait le temps de prendre un peu un moment.
Oui, faire un peu le point, parce que c'est vrai que c'est des vies un peu à 1000 à l'heure. Donc on n'a pas le temps, j'ai absolument pas le temps de prendre finalement le plaisir de chaque instant. On est pied au plancher et en même temps c'est formidable. Donc si demain ça devait s'arrêter, effectivement, ce serait peut-être d'ouvrir les cartons et de faire comme ça le point de tout ce que j'ai pu vivre.
Cette vie à 1000 à l'heure, c'est la preuve du succès aussi, mais est-ce que ça vous plaît d'être tout le temps à 1000 à l'heure? Ou est-ce que de temps en temps, vous avez l'impression d'être dans un engrenage et que vous aimeriez bien pouvoir avoir des boutons de pause et dire « Oh !»
Alors c'est une bonne question. J'ai peur du vide, donc c'est vrai que par exemple la période du Covid, là où tout s'est arrêté malgré nous, c'était très étrange. À la fois j'ai effectivement une sensation où ça a fait un peu de bien comme ça, mais ça n'a pas duré très vite. Il y a comme une espèce de manque où j'ai eu envie de repartir, de reprendre la route, de rencontrer. C'est-à-dire quand on crée, vous savez, d'un spectacle à l'autre, la page est blanche et il faut la remplir. Et pour la remplir, rien de mieux que le voyage, que les rencontres et de voir un peu ce qui se passe autour de nous, ailleurs. J'ai fait ça toute ma vie et aujourd'hui, voilà, je suis dans cette espèce de rythme, mais qui me plaît aussi parce que au-delà de la création, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est cet enjeu de société, c'est d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour construire, ou en tout cas pour apporter aux uns et aux autres quelque chose qui nous tire vers le haut.
Mmh. On va en parler de tout ça, on va parler de votre travail, on va parler de votre parcours. Le principe de cette émission, Mourad, c'est que je vais vous donner des petits papiers. Et sur ces papiers, il y a des mots. Vous en piochez un et puis on voit ce que ça raconte.
Sport.
Ah ben oui, c'est important le sport. D'autant plus qu'il y a eu les Jeux Olympiques, où on a pas mal entendu parler de vous, on a vu pas mal de votre travail aussi. Vous avez d'abord, vous avez travaillé avec l'équipe olympique française de natation artistique, natation synchronisée. Vous avez chorégraphié leur prestation, une de leurs prestations. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres choses. Vous avez créé la danse des Jeux Olympiques, qui est une danse qui a été reprise un peu partout et que tout le monde a dansé un peu partout en France et dans le monde, moi-même d'ailleurs. C'est pas rien ça quand même.
Oui, non, c'est pas rien. C'était une grande fierté d'avoir été sollicité pour ce grand rendez-vous attendu par le monde entier. Donc, ce qui a été formidable, c'est de voir qu'effectivement, le sport s'est intéressé à la danse, à la chorégraphie. Donc, pour nous, ça a été une très belle vitrine, au sens où ça nous a permis de partager la danse, notre art, avec un public qui peut-être ne pense que c'est pas, enfin, pense que c'est pas pour eux. Ça nous a permis effectivement, d'imaginer, d'inventer comme ça des passerelles entre le sport et la danse. Donc ça, j'ai été très heureux de le faire. Puis en plus, ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort et d'aller dans un monde que je ne connaissais absolument pas, celui de la natation
Oui.
synchronisée. Un vrai défi que j'ai perçu les derniers jours avant la compétition. Avant, j'y pensais pas trop. Mais plus on s'approchait de la date de compétition, là, j'ai pris la mesure du projet.
Bah oui, et puis tout d'un coup, vous faisiez partie de l'équipe aussi.
Oui.
Donc, c'était important de voir quel a été le résultat.
Alors, on était quatrième, donc
Ouais.
c'était plutôt une bonne place, parce que bon, il y avait de grandes nageuses, mais j'étais très content de voir qu'effectivement la France s'est placée finalement à une place plutôt encourageante, quatrième pour à 14 points près. Donc c'était vraiment très très serré. On a eu la meilleure note artistique pour des nageuses qui font ça en plus de leurs études ou leur travail. C'est-à-dire elles font pas ça tout le temps.
Ouais.
Et elles ont fait cette compétition face à des nageuses qui font ça matin, midi, 4 heures, soir. Donc là, enfin, moi, j'ai été impressionné par leur capacité enfin, de travail, puis de vouloir s'ouvrir, de sortir aussi de leur zone de confort, d'essayer d'autres rythmes, d'autres mouvements. Donc tout ça a été fabuleux. Et
Mourad Merzouki, comment, quand on est chorégraphe et qu'on a l'habitude de travailler avec des danseurs sur la terre ferme, en tout cas dans un espace en 3D, comment tout à coup dans l'eau, comment on fait? Est-ce que vous-même vous êtes allé dans l'eau essayer pour
elle est
voir ce
trop
que ça
froide.
donnait?
Elle est
Elle
trop
est trop
froide.
froide.
Non,
Non,
je
mais pour
plaisante.
vous rendre compte un peu de ce que c'est ou pas?
Alors en fait, on a travaillé d'abord en studio, donc sur le dur, hein, pour essayer de... Enfin, j'ai cherché les mouvements avec elle. C'était dans un studio de danse. Et puis ensuite, on essayait tout de suite dans le bassin, c'est 3 mètres de profondeur. Donc la difficulté, c'est qu'il fallait effectivement faire un focus sur le haut du corps, travailler essentiellement le haut du corps, prendre en compte le fait qu'elles aient pas d'appui. Hein, donc ça, c'était une des difficultés. Et puis ensuite, il y a des figures imposées. Donc il fallait que j'intègre aussi dans la chorégraphie. Donc on faisait des allers-retours entre le studio et le bassin. C'était pas facile. Je reconnais que plusieurs fois, des choses qui marchaient très très bien en studio, il fallait
Adapté, ouais.
abandonner ou
Ouais.
adapter. Voilà. Et puis en plus, avec cette contrainte de notation, c'était aussi quelque chose qui rendait de la difficulté au ballet. Mais au final, je crois qu'on est tous sortis grandis de cette aventure, parce que il fallait adapter, repenser, revoir ses copies, etc. Mais c'est intéressant parce que c'est un autre rapport au corps, un autre rapport au rythme, un autre rapport à l'espace également, parce que le public, il est quasi à 360, avec une relation à la musique qui est différente. Non, je pense que j'ai appris de ce rendez-vous.
Oui, vous aviez déjà expérimenté d'autres formes de danse ou de rapport en suspendant vos danseurs. Je pense au spectacle vertical où là, ils ne touchaient pas le sol. Enfin, pas toujours en tout cas. Ça se passait un peu dans les airs. Donc, on peut faire des parallèles entre ce qui s'est passé dans l'eau et dans les airs, parce qu'il n'y a pas d'appui non plus, c'est différent.
C'est différent, ouais, c'est différent, mais l'exercice était tout aussi difficile. J'ai eu beaucoup de mal aussi à créer ce spectacle vertical, parce que là aussi, je mets des contraintes. Alors,
On dirait que vous aimez ça,
ouais,
hein?
quand on met des contraintes, ça nous oblige encore une fois à ne pas être dans la redite, à inventer, à prendre des risques. C'est aussi ça qui est plaisant, c'est de se dire à la finalité, c'est de montrer au spectateur quelque chose qu'il n'aura pas vu, ou en tout cas qu'il va découvrir par rapport à mes précédentes chorégraphies. Et donc, dans Vertical, c'est vrai que la difficulté, c'était, je sais pas, je donne un petit exemple comme ça, là, ce matin, la chorégraphie que je fais avec des élastiques. Alors moi, j'aime bien écrire, compter, avoir un rapport à la musique assez précis. On sait que l'élastique, c'est
Ouais,
aléatoire. Donc, en
c'est moins
fonction du poids
facile.
des danseurs, des danseuses, en fonction de... Donc, c'est du millimètre près, hein. C'est tout ce calcul. Et ça prend du temps, forcément. Les danseurs doivent être extrêmement patients. Et puis, la graisse, c'est pas toujours confortable. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, au début, ça crée comme ça des frottements, donc des bleus. donc il faut voilà, il faut être patient. Voilà, on n'a rien sans rien. Et vertical, c'était quand même beaucoup de travail aussi. Mais je crois que le jeu en valait la chandelle parce que ça nous a amené à un rapport sur scène qui est complètement inédit, en tout cas par rapport à mes précédentes chorégraphies.
Vous avez commencé par le karaté et la boxe, les arts martiaux, c'est du sport. Est-ce que la danse est un sport ?
Alors souvent, effectivement, on a tendance à mettre dos à dos le sport et la danse. Moi, je dis que finalement, il y a tellement de points communs, je mets tout ça au même endroit. Vous savez, le boxeur Mohamed Ali, Cassius Clay, il disait que c'était des danseurs. Pourtant, c'est des boxeurs de haut niveau, mais il disait que c'était des danseurs. Mais je les comprends, parce qu'il y a un rapport au rythme, de jeu de jambes, le corps, il est en mouvement. Le bon boxeur, c'est celui qui est fluide dans ses mouvements, qui est en rythme, qui est... et pour le danseur, c'est pareil. Non, moi, j'aime bien penser que et le sport et la danse, finalement, fait qu'un. Au-delà du mouvement, il y a aussi la même exigence sur soi, il y a la même pression, en tout cas une pression face à son adversaire, ou face au public, ou face au jury. Voilà, moi, je fais comme ça beaucoup de rapprochements. Quand j'ai été boxeur, le ressenti que j'avais sur un ring, c'est exactement le même que j'avais quand le rideau allait s'ouvrir et que j'allais partager la chorégraphie avec le spectateur. Et puis, encore une fois, oui, c'est des sports de haut niveau au sens où un danseur, il danse tous les jours. Il faut qu'il soit en forme, il ne faut pas qu'il se blesse, il faut qu'il fasse attention à sa santé, etc. Donc j'aime bien l'idée qu'on aille voir un ballet ou qu'on aille voir un sport, finalement, on va se procurer des émotions presque communes. Et...
Vous parlez de la boxe, vous avez fait un spectacle qui s'appelle Boxe, d'ailleurs, autour de la boxe. Et puis, il y a aussi Les Nouveaux Mondes. Ça, c'est un spectacle que vous avez fait avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani et l'orchestre Divertimento autour du sport, de la danse, du hip-hop, dans le cadre des Jeux Olympiques aussi, en amenant des athlètes sur scène aussi. Il y avait du BMX, il y avait
des acrobates,
du handisport aussi, escrime. Il y avait aussi une volonté de rassembler justement sport et danse et de montrer à l'occasion des Jeux Olympiques que tout ça faisait partie d'un même ensemble, dans votre tête en tout cas. Oui.
C'est un peu notre ADN avec Zaya. On a choisi ces métiers pour le plaisir de la musique ou pour la danse, mais aussi on a choisi ces métiers pour ce que ça nous permet de faire, c'est-à-dire ça nous permet vraiment de créer des liens, des passerelles entre les mondes, entre les genres, entre les musiques, c'est ça qui est formidable aussi, c'est que vraiment très très vite sur un plateau, on peut comme ça faire dialoguer des univers totalement différents, voire même parfois où on peut penser que c'est opposé, mais en fait très très vite, en une heure de spectacle, le public il voit un ensemble, il voit plus qu'un, et c'est ça qui est formidable. Et donc effectivement dans ce spectacle-là, le challenge c'était de partager avec le public, finalement, tout ce qui alimente le sport, la danse, la musique, toutes ces différences, mis côte à côte, on a démontré, je crois, que ça pouvait faire plus qu'un et que ça pouvait être beau à voir, beau à entendre, beau... Voilà, donc c'est un peu ce qui nous a plu dans cette aventure et encore une fois, le fait de le présenter dans ce grand rendez-vous où on se savait... être regardé comme ça par des publics tellement différents, des jeunes, des moins jeunes. Donc ça, c'était juste génial parce que c'est de rappeler que finalement, c'est pas dans l'opposition qu'on fait le beau, mais au contraire, c'est dans le rapprochement, dans ces prises de risque aussi.
Et Les Nouveaux Mondes, on peut voir ça sur Arte TV, c'est disponible encore pour l'instant.
Les petits papiers.
Roulement de tambour. Apprendre. C'est un mot que j'ai en moi tout le temps. C'est-à-dire, comment dire, j'ai déjà pris du retard au début pour apprendre la musique classique, le théâtre, l'institution, enfin tout ça. Je savais qu'il fallait que j'aille dans des espaces que je ne connais pas, qui ne faisaient pas partie de mon univers, de mon monde. Donc il fallait apprendre.
Vous n'êtes pas passé par une formation traditionnelle, classique, par une école, un conservatoire. Donc vous venez du hip-hop et puis... petit à petit, vous avez élargi votre champ et vous avez finalement atteint des sommets auxquels vous n'aviez peut-être pas osé rêver au départ ?
Oui, tout à fait. C'est un parcours d'autodidacte.
Ouais.
Donc, il fallait tout apprendre. Il fallait oser. Parce que quand on est autodidacte, il faut chercher, il faut oser, il faut aller vers. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait tout le temps. Et c'est ce que je continue à faire. Parce que je sais que j'ai tellement de choses, je crois, à vivre, à comprendre. Et je crois que c'est cet état d'esprit qui a fait que j'en suis là aujourd'hui avec toutes ces formidables collaborations. Tout. C'est parce que j'ai eu envie d'apprendre, j'ai eu envie d'aller vers l'autre, j'étais très curieux. La danse hip-hop, qui est une danse formidable, qui s'est inventée dans la rue pour qu'elle grandisse, pour qu'elle évolue, pour qu'elle touche un public plus élargi, il lui a fallu se confronter à l'autre, s'essayer, se tromper, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma vie. Et effectivement, je suis content aussi aujourd'hui de voir que c'est une danse, presque 50 ans après, elle existe encore, elle existe dans la rue, elle existe dans les plus grandes scènes du monde, elle existe dans les écoles, elle existe dans les centres commerciaux, dans les hôpitaux, dans les prisons. C'est une danse qui touche vraiment tous les publics, mais elle en est là aujourd'hui parce qu'elle a su apprendre.
Qu'est-ce que vous diriez que votre parcours, que le fait d'être autodidacte vous a amené comme force ?
Ah, la force que cela m'a amené, c'est qu'au fond, je n'avais rien à perdre, tout était à faire, voilà, c'est ça. Je crois que le fait de ne pas être dans un cadre, dans quelque chose qui aurait pu me limiter d'une certaine manière, m'a naïvement, certainement, dans mes premières années, ça m'a permis de tout essayer sans trop réfléchir. Tout était à faire, tout était à construire, tout était à inventer. Quand on est dans cet état d'esprit-là, finalement, on se surprend tous les jours.
Oui.
Sinon, peut-être que j'aurais été dans une espèce de moule et j'aurais fait comme mon voisin, ma voisine, alors que là, je partais tellement de rien, hein, d'une certaine manière, avec un rêve,
ouais.
Avec l'espoir de se dire un jour peut-être que ce que je ferai pourra toucher, interpeller.
Vous êtes devenu directeur du Centre national chorégraphique de Créteil-Val-de-Marne. C'était pas gagné d'avance pour quelqu'un qui était d'abord autodidacte, qui n'avait pas un parcours académique et qui venait du hip-hop en plus. Tout à coup, vous accédiez à une responsabilité qu'on donnait peut-être pour la première fois à quelqu'un comme vous. Comment vous avez traversé ces 13 années et qu'est-ce que ça vous a apporté ?
On apprend beaucoup quand on dirige un centre chorégraphique
national. Là, pour le coup, on rentre dans un cadre. Là,
on rentre dans un cadre. Mais je ne me suis pas laissé enfermer. La singularité de mon parcours, j'ai voulu le mettre au service de cette maison. Et c'est ce que j'avais dit quand j'ai postulé pour la direction de cette maison. Bien sûr, après, il y a quand même un minimum qu'il faut, bien entendu, intégrer, parce que ça reste une institution.
C'est une histoire de compromis, j'imagine.
Voilà, c'est ça. Mais j'ai eu quand même envie d'apporter un peu de ce que je suis, de ma personnalité, de ma sensibilité. Mais il a fallu un peu de temps, parce que c'est toujours pareil. Hein, il faut que chacun puisse apprendre à travailler ensemble, à se connaître, etc. Mais j'ai beaucoup appris, parce que l'institution, aujourd'hui, si on n'a pas un lien avec l'institution, c'est compliqué. Le fait de travailler des projets dans un centre chorégraphique, ça nous permet d'aller plus loin, de réunir plus de monde, d'être un peu plus en sécurité. Voilà, la seule chose, c'est qu'il faut rester soi-même et se dire, il y a un outil, et puis à nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça tous ensemble. C'était ça l'intérêt de ce projet. Mais 13 années, j'ai passé 13 belles années dans ce CCN. J'ai aussi appris beaucoup du politique, notamment. C'est pas évident, le politique, ça donne un peu le tournis. Mais en même temps, c'est important de le comprendre. C'est toujours pareil, quand on comprend un petit peu mieux nos interlocuteurs, là où on est, on prend la hauteur nécessaire pour ensuite faire face aux difficultés, aux doutes, etc. Mais c'était une grande fierté. Au-delà de ma petite personne, c'est une grande fierté pour toute une jeunesse qui a regardé, qui regarde l'institution avec défiance. C'est-à-dire qu'un parcours comme le mien, je me dis, si les jeunes se disent « pourquoi pas moi ?» ou alors « peut-être que ça peut m'encourager à faire ». Enfin, vous voyez, c'est ça aussi qui m'importe. C'est ceux qui arrivent demain, c'est cette jeunesse qui se pose beaucoup de questions. Et je me dis, si dans un parcours comme le mien, ça permet de créer, en tout cas d'apporter comme ça un peu d'énergie, d'espoir, de confiance, ben, je me dis, ben, tout ce qu'on fait, on le fait aussi pour ça.
Ouais. Je vous ai demandé, Mourad Merzouki, quelle était la force du fait d'être autodidacte. Quelle serait la faiblesse dans votre parcours d'autodidacte, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué?
Tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit, est-ce que le fait de prendre un peu le temps, est-ce que ça vous manque ou c'est peut-être ça parfois où je me dis, c'est vrai que je ne m'arrête pas forcément. Quand on ne s'arrête pas, il y a dans sa vie privée, on est peut-être moins présent, on est peut-être moins attentif parce qu'on est dans cette urgence, un peu comme des funambules où on a peur de tomber et donc peut-être ce qui me manque, c'est effectivement de dire, sur cette période, je prends un temps, et ça, je ne le fais pas parce que j'ai cette peur de vide, et puis je me suis construit comme ça. Et donc aujourd'hui, quand on m'appelle pour un projet, je dis oui d'abord sans me poser les conséquences. Donc c'est vrai que ça fait une vie à mille à l'heure, mais en même temps, à l'inverse, c'est toujours pareil, hein. C'est ça la difficulté de la vie. C'est quoi qu'on fasse, de toute façon, on aura toujours un moment à se dire, si je l'avais fait comme ça, ce serait différent. Donc, je ne veux pas trop me poser un milliard de questions. Je continue comme ça et on verra demain comment les choses vont évoluer. Mais c'est vrai que si je dois répondre spontanément à votre question sur qu'est-ce qui me manque, c'est... oui, et puis en plus, j'ai plus 20 ans, donc c'est plus compliqué aujourd'hui. Et je me dis, c'est vrai que la vie est passée comme ça, en un claquement de doigts, j'ai rien vu passer. C'est vrai que ça a été tellement vite. Et en même temps, je pense que si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'étais dans cet état d'esprit. Donc peut-être, oui, quelques jours de vacances me feront du bien. Beau.
On l'avait déjà dit plusieurs fois ce mot depuis le début. J'ai déjà entendu au moins deux fois.
Ouais, le beau. Le beau, parce que le monde dans lequel on est, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'options. Soit on regarde le verre à moitié vide, soit on regarde le verre à moitié plein, soit on trouve que tout est gris, tout est triste, soit on dit, non, c'est pas que gris, c'est pas que triste, ça peut être beau, ça peut être solaire, ça peut être... Et donc je préfère... avoir le regard sur le beau et le solaire, mais pas parce que je fais l'impasse sur une société qui n'est pas facile, un monde qui n'est pas facile. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que je me dis, le métier que j'ai choisi, la responsabilité d'artiste qui est la mienne, c'est de partager de belles choses avec les publics. Quand on va voir un spectacle, c'est pour... Enfin, en tout cas, ce que j'espère quand on vient voir mon travail, c'est pour qu'à la fin, on reparte comme si on s'était un petit peu oxygéné, comme si oui. On avait fait... parce qu'on a besoin. On a besoin de cette sensation, oui. Ce ressenti. Et...
L'idée, c'est de créer du beau, mais ça n'empêche pas de créer de la réflexion.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais la réflexion... Enfin, en tout cas, mes spectacles que je partage, ce sont des spectacles qui sont des spectacles où je partage des images, où j'essaie de... où le spectateur peut se raconter sa propre histoire. Mais je garde toujours au fond de moi cette idée que le spectateur doit repartir avec une sensation qui soit une sensation de légèreté, une sensation qui fait du bien. Je ne fais pas partie de ces artistes qui, vous savez, il y en a qui font ça très très bien, où ils parlent des mots MAUX de la société, où ils sont effectivement dans des spectacles où il y a de la réflexion, comme vous dites. Il y en a qui font ça très très bien. Moi, j'ai un peu la trouille, à vrai dire.
C'est vrai.
J'ai un peu la trouille parce que mes premiers spectacles à l'époque, je me souviens, on me disait « Oui, tu devrais parler des difficultés dans une banlieue, dans un quartier populaire, des difficultés d'être français, issu de... » Enfin, etc. Vous savez, toutes ces questions comme ça qui sont... Moi, j'ai toujours fui ça parce que je ne voulais pas m'enfermer sur cette question identitaire, etc. Parce que ça m'angoissait. Je préférais à l'inverse, déjà fuir parce que je n'avais pas de réponse. Oui, je ne sais pas comment. parler de quelque chose que je n'ai pas choisi. C'est comme ça. C'était dur, c'était difficile. Et peut-être mon remède à moi, c'était de faire de la chorégraphie, de faire du divertissement, d'abord par le cirque. D'abord. Et donc, j'avais quelque chose. Ça me faisait du bien. Je préférais qu'on applaudisse ce qu'on me fait plutôt que de me justifier ou d'essayer de raconter telle ou telle difficulté que je pouvais avoir adolescent. Et j'ai gardé ça tout le temps. Je me disais, au fond, la meilleure façon de rassurer, d'aller vers l'autre ou d'être compris, c'était de faire du spectacle. Et c'est pour ça que je suis resté toujours dans une approche plutôt divertissante, plutôt de me dire, quand une personne vient me voir après un spectacle qui me dit j'ai voyagé, pour moi, c'est le meilleur retour que l'on peut me faire. Et je suis resté à cet endroit-là. Et bien sûr, j'aurais adoré, quand j'entends certains philosophes, certains artistes qui parlent de difficultés qu'on peut vivre avec des mots tellement justes ou avec un spectacle tellement juste, bien sûr, je me dis, j'adorerais le faire comme ça. Parce qu'au fond de moi, parfois, je peux vivre une forme d'injustice, une forme, et j'arrive pas à l'exprimer, j'arrive pas à trouver les mots. On peut être vite maladroit parce que ça nous oppresse. Et donc je le garde au fond de moi. Et ma manière de l'évacuer, c'est en faisant de la chorégraphie. Et je me dis, le message, il est dans une deuxième lecture, c'est-à-dire quand le public voit un jeune sur scène d'un quartier populaire, mais qui est juste incroyable, parce que talentueux, parce que charismatique. Enfin, je me dis, c'est cette lecture-là que j'aimerais qu'on ait de la jeunesse française.
Oui, il y a les messages sur les mots de la société, mais il y a aussi des messages sur d'autres mots qui sont peut-être plus personnels ou qui concernent tout le monde. Je pense à Beau Séjour, votre dernier spectacle, qui est un spectacle qui se penche sur les corps qui vieillissent, sur le temps qui passe, sur la manière dont on est danseur, peut-être en prenant de l'âge. J'imagine qu'il y a des choses qui doivent un peu vous trotter en tête par rapport à ça, puisque vous avez dit il y a quelques minutes, je suis plus si jeune. Ouais. Mais donc, c'est aussi une manière de parler de ce qui concerne tout le monde, mais à travers quelque chose de beau et qui va ravir les spectateurs. Mais c'est pas anodin non plus, tout ça.
Oui, non, c'est vrai. C'est sûr que de partager, en tout cas, dans un spectacle thématique ou qui nous parle profondément, c'est toujours plus porteur. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que sur Beau Séjour, effectivement, je n'ai pas fait une approche philosophique ou je n'ai pas fait une approche, comment dire, ce n'est pas un spectacle qui traite de la vieillesse, ce n'est pas un spectacle qui traite du temps qui passe. Simplement, je suggère, à l'image de mes précédents spectacles, c'est-à-dire, il y a un point de départ, effectivement, qui est la question du temps qui passe. J'ai voulu en parler maintenant, je viens de passer 50 ans, et comme je disais tout à l'heure, c'est passé à une vitesse juste incroyable. J'ai plus un corps de 20 ans, je sens que ça devient de plus en plus difficile. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de proposer aux spectateurs une lecture un peu différente. C'est-à-dire, quand on pense au hip-hop, on pense aux petits jeunes qui tournent sur la tête, alors qu'aujourd'hui, on sait que certains danseurs hip-hop ont 60, 65, 65 ans. Certains sont grand-père, sont grand-mère. Et je me dis, tiens, peut-être que de partager avec le public une autre lecture de ces corps qui ont vieilli, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait les préparer à regarder le corps autrement plutôt que dans ce côté virtuose. Mais d'aller chercher le beau, on en revient, ailleurs. Ça peut être dans un regard, ça peut être dans un corps qui n'est plus le même et qu'on va regarder avec sous l'angle du poète, de la poésie du corps, et tout ça m'a donné envie de faire ce spectacle là alors après, je lui ai donné une lecture un peu décalée, un peu drôle, un peu, je me suis pas pris au sérieux, mais en même temps c'est un début de quelque chose. Peut-être que demain je travaillerai un spectacle avec de vrais corps d'un certain âge.
Oui, parce que là, ce sont des danseurs qui
que j'ai transformés.
Sont transformés, mais qui sont jeunes, qui n'ont pas l'âge qu'ils représentent sur scène.
Ça, c'est exactement ça. Mais alors, je l'ai fait de cette manière-là pour deux raisons. Parce que, encore une fois, c'est ma première approche et je me suis dit, d'abord, je vais travailler sur des attitudes, etc. Donc, c'est une première approche. Encore une fois, peut-être que demain, j'aurai l'occasion de travailler avec de vraies personnes âgées. Et la seconde raison, elle est économique. C'est-à-dire que de travailler avec une distribution de personnes d'un certain âge pour faire des tournées, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut faire des one-shots, c'est plus facile. C'est-à-dire si c'était un événement pour une soirée, là, effectivement, on travaille un certain temps et puis on monte le spectacle. Là, en général, mes spectacles sont beaucoup sur la route. Ça nécessite une logistique assez complexe. Et puis moi, je suis aujourd'hui c'est une compagnie indépendante et la compagnie existe grâce à la diffusion. Donc, c'était pour moi...
Pourquoi c'est plus compliqué de faire tourner des personnes plus âgées?
Parce que c'est prendre des trains, des avions, c'est des hôtels, c'est de la disponibilité. Ça va très vite, c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant mineur, qui quand ils sont dans des spectacles, souvent, il faut avoir des distributions...
triple ou double.
Exactement.
Pour alterner.
Je ne suis plus au Centre chorégraphique national de Créteil.
on n'a plus les mêmes budgets. On a compris. Si vous aimez le principe des petits papiers et de ce podcast, il y a de très nombreux épisodes à découvrir avec des artistes de tous horizons. Et vous pouvez même nous suivre et vous abonner pour ne rien rater.
Ah, rêver. Ah, si on rêve pas, je ne vais pas dire on fait pas grand-chose, mais on réduit nos actions, on réduit ce que l'on fait, on réduit beaucoup de choses si on n'en rêve pas. C'est beau de rêver, grand, plus grand que nous, même si on ne fait pas tout, mais au moins c'est ce qui va être des points de départ d'un spectacle, d'une rencontre, d'un voyage. Et le rêve a fait partie de m'a accompagné toutes ces années. À chaque fois que je fais un projet, je...
Ça veut dire que quand vous pensez un projet, au moment où c'est à l'état d'idée, vous rêvez vraiment très très grand, sans limite. Il y a rien qui vient court-circuiter, que ce soit des contingences techniques, économiques et tout. Non, le premier rêve, il est énorme.
Alors le premier rêve est énorme. Après, avec le temps, j'ai appris à ajuster mon rêve en fonction des projets.
Oui, ça c'est ce qui se fait au fil des étapes, j'imagine.
Oui, tout à fait. Je donne un exemple. Box, on avait parlé tout à l'heure avec un quatuor à cordes sur scène, ou après Folia avec un ensemble au plateau, ou Le Nouveau Monde avec Zaya Ziwani et Divertimento. Il y a 30 ans, pas une seconde, j'aurais imaginé avoir une violoniste à un mètre de moi. Vous voyez. Mais pourquoi ça s'est fait? C'est parce que je l'ai rêvé. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis projeté sur cette idée de rencontrer de vrais musiciens et de dépasser le vinyle, le disque, la cassette, etc. Donc j'ai rêvé cela. Pour que ça puisse arriver, je me suis projeté dans des choses qui, à cette époque-là, m'étaient juste impossibles. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, je me dis, tout à l'heure, on parlait de la direction d'un centre chorégraphique. Il y a 30 ans, c'était juste inimaginable, vraiment. Mon entourage, tout le monde disait que ça n'allait pas durer 2, 3, 6 mois. Donc on était vraiment dans quelque chose d'éphémère et pas grand monde n'y croyait. Donc c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'on est parti de tellement loin. Et quand ensuite, quelques années plus tard, on se retrouve à danser avec 80 musiciens derrière, à diriger une maison, s'il n'y a pas un peu de rêve.
Oui. Est-ce que vous avez rêvé grand dès tout petit? Avant même de penser peut-être à la danse, vous rêviez déjà grand.
Oui. Ouais, parce que en fait, très très vite, peut-être inconsciemment, je sais pas. On revient à cette époque-là, malheureusement, qui n'a pas beaucoup beaucoup changé, mais au début des années 80, avec les copains, très vite, on a eu conscience que l'avenir était quand même pas terrible. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez 17 ans, vous avez envie d'aller danser avec les copains, avec les copines, et puis on vous laisse devant en disant non, vous rentrez pas, mais pas vous rentrez pas parce que vous êtes mal habillé, vous rentrez pas pour ce que vous représentez. Ça, c'était il y a 30 ans, un peu plus. Je vais vous dire, quand vous prenez ça en pleine figure, vous dites, on peut pas accepter de vivre dans un monde qui nous accueille de telle manière. On n'a rien fait. On est comme n'importe quel jeune qui voulons vivre, qui voulons s'amuser, qui voulons partager, qui voulons... Donc, quand vous vivez quelque chose comme ça, vous avez deux options. Soit vous vous enfermez totalement et puis c'est terminé. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire passer à côté de tout. Soit il y a ce petit truc, alors je ne saurais pas dire, est-ce que j'avais la bonne étoile, je ne sais pas, qui vous dit non, 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 non. Et voilà, j'ai eu la chance de me dire, il va falloir se retrousser les manches. Et c'est ce qu'on a fait avec les copains. Mais c'est vrai que c'est comme un espèce de déclic, c'est presque, vous savez, comme l'instinct animal. Je crois que c'était un peu ça.
Mourad Merzouki, vous dites, je vous ai entendu dire dans une interview qu'on oublie un peu de rêver aujourd'hui.
Oui, oui, j'ai un peu cette sensation qu'on oublie de rêver. Enfin, quand je croise du public, des gens, de quand on prend un peu de... Les gens ont peur, les gens sont inquiets. On est dans un monde qui n'est pas facile. Le monde dans lequel on est, il n'est pas facile. Il va à 1000 à l'heure. On a conscience très, très vite de tout ce qui peut se passer dans le reste du monde par les nouvelles technologies. Enfin, donc, on est comme ça dans une espèce de comment on dit, centrifugeur.
Oui, c'est vrai, une centrifugeuse, ouais. Centrifugeuse. Quelque chose qui va très très vite.
Voilà, et donc on s'oublie, on peut s'oublier, on peut s'assécher très très vite, on peut... Le rôle de nos métiers, les uns et les autres, c'est effectivement, c'est au contraire de dire, de rappeler qu'on est en vie, qu'on peut être entouré de beaux, de choses belles. Mais il faut le rappeler, je ne sais pas comment l'expliquer.
D'entretenir la capacité à rêver, quoi.
Voilà, oui, je lisais un livre la semaine dernière qui m'a rappelé tout ça. C'est Charles Pépin, ça s'appelle La Joie, je crois. Ça se dit très, très vite, mais ça rappelle toute cette importance d'être attentif à ce qui nous entoure, à toutes ces petites choses qu'on a tendance d'oublier. C'est le monde dans lequel on est qui fait qu'à un moment, effectivement, on passe à côté ou voilà, on rentre dans un rythme qui n'est plus le nôtre, le rythme de ce monde, et on peut passer effectivement à côté de choses qui sont importantes, qui nous aident à continuer à exister le plus justement possible.
Est-ce que l'acte de danser en lui-même, est-ce que vous dansez encore d'abord, de temps en temps, même tout seul pour vous
Je danse saute.
Oui, vous dansez sauter.
Alors je danse beaucoup moins. Malheureusement, je me suis blessé il y a deux ans. Je pensais que ça allait passer. J'ai fait une fissure au ménisque que j'ai opérée, mais j'ai pas complètement encore retrouvé mon genou comme avant. Donc, quand je danse, c'est plutôt dans des rendez-vous participatifs où ça ne nécessite
pas... Mais est-ce que pour vous, vous dansez, est-ce que l'acte, ou est-ce qu'à une époque, vous l'avez fait, l'acte de danser, ça permet cette évasion, ce rêve, peut-être ce détachement de la réalité?
Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand on est en mouvement, quand on est dans l'effort, quand on est dans le lâcher-prise aussi, quand on est... oui, c'est vrai qu'on a un rapport à son corps qui est qu'on va pas avoir dans sa vie de tous les jours. Cette sensation est porteur, fait du bien. C'est une façon aussi de s'échapper, de mettre de côté parfois une pression, parfois des soucis, parfois... Donc l'acte de danser, il est effectivement... Il est nécessaire, j'ai envie de dire, pour chacun d'entre nous. C'est comme quand on a fait un bon jogging, quand on a fait une natation, on a été se baigner. Enfin, vous voyez, quand on s'est dépensé, on dit souvent oh, « je me sens mieux après ». Donc de danser, on ressent ce...
Est-ce que vous aimez, Mourad Merzouki, être dans des lieux publics où les gens dansent et regarder les gens danser? Pas des danseurs, hein, monsieur et madame, tout le monde qui danse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous procure du plaisir de regarder ça?
Ah mais j'adore ça. Quand vous marchez dans la rue, vous voyez des gens danser, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, ils sont bien, ils sont ensemble, ils sont eux, ils sont... Et d'ailleurs, on le voit depuis le Covid, on sent malgré tout, la question du corps et de la danse est revenue un petit peu, enfin, est redevenue importante chez chacun d'entre nous. Et je le vois quand on fait des projets participatifs, c'est beaucoup, beaucoup de monde qui répondent présent. Les gens ont envie d'être spectateurs, mais ont aussi envie d'être acteurs parce que, voilà, on sait combien c'est important de bouger, de danser seul ou avec d'autres d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que vous avez vu là, ces dernières années, toutes ces villes qui ont fait des propositions émotions, de grands rendez-vous qui rassemblent les gens dans la place publique. Quand on voit tout ce monde avec un geste commun, on mesure la beauté du mouvement et d'être ensemble. Et d'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, la danse des Jeux, c'était aussi ça.
La danse des Jeux Olympiques, c'était une chorégraphie accessible à tous et qui s'est dansée partout pendant les Jeux Olympiques.
Voilà, complètement. J'ai vu des écoles entières comme ça danser ensemble avec le même mouvement. Enfin, c'est tellement beau. Enfin, et je trouve que c'est une façon de résister à ce monde dont on parlait tout à l'heure qui n'est pas facile. En tout cas, c'est une façon de rappeler l'essentiel. Voilà, il y a eu des moments où on pouvait plus se rassembler avec tous ces événements terribles que l'on a vécu. Enfin, et quand on a des espaces-temps où les gens sont ensemble et sont des moments précieux, importants, qu'il faut qu'on préserve et qu'on continue encore à construire, à créer.
On regarde le dernier papier ?
Allez. Mixité. Bah dis donc, j'ai bien aimé vos mots. Mixité, c'est un petit peu mon ADN. Mixité, de par mon histoire, ma vie. Moi, je suis convaincu que la mixité, elle nous permet de d'avancer, de
s'enrichir,
exactement. La mixité, elle a fait que nous tirer vers le haut. À chaque fois que j'ai fait des collaborations, que j'ai essayé de rapprocher ces mondes éloignés, à chaque fois le résultat a été inattendu, surprenant, mais agréable, mais à chaque fois, ça a procuré du nouveau.
De la surprise.
De la surprise. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si on assume d'être différent et qu'on se dit à un moment donné, malgré nos différences, mais en étant ensemble, on peut construire, on peut faire, on se rend compte que c'est gagnant-gagnant et les résultats, il est positif. Par contre, si on ne l'assume pas et qu'on se tourne le dos, on perd du temps, on passe à côté d'eux, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour moi, la mixité, au contraire, ce n'est pas un vilain mot, ce n'est pas comme peuvent le penser certains. Vous savez, ceux qui aiment bien faire des cases comme ça.
Oui, surtout ne pas mélanger les genres.
Surtout ne pas le mélanger. Au contraire, moi j'ai toujours été surpris de voir tout ce qu'on peut faire quand on rapproche des mondes éloignés. Voilà, c'est...
Vous avez, Mourad Merzouki, mélangé les genres aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de hip-hop, on l'a évoqué plusieurs fois, mais vous avez été vous promener un peu partout en allant chercher dans d'autres terrains, d'autres mondes. Votre compagnie Kefig, je prononce bien, c'est Kefig.
Oui, Kefig.
Vous l'avez ramené dans la région de Lyon, là où vous avez grandi, vous l'avez ramené là-bas. Et je pense que là aussi, il y a un travail de mixité, de transmission qui se fait et qui est important pour vous.
Très important parce que ce que je disais tout à l'heure, ce que j'entreprends tous les jours, c'est un défi artistique, mais c'est un défi sociétal. Je sais malheureusement encore aujourd'hui, en 2024, c'est encore compliqué dans les quartiers populaires, dans toutes ces zones retirées où beaucoup se posent encore la question de leur place dans une société qui est la leur. Donc mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer effectivement de rapprocher des publics, des générations, des classes sociales. Et ces moments-là, c'est des pas de géant.
Oui, parce que vous avez amené le hip-hop sur les grandes scènes, vous avez amené la danse sur les grandes scènes, mais il y a, si je comprends bien, aussi une volonté de la ramener, peut-être même jusque dans la rue, et de montrer qu'il y a peut-être pas tant de frontières que ça entre une grande scène et une place où tout le monde peut venir danser.
Exactement. Quand j'ai fait le passage de la rue à la scène, l'idée, c'était pas d'abandonner la rue. C'était pas d'abandonner de là où je viens, de mon entourage. Non, c'était pas. Au contraire, l'idée, c'est de faire des allers-retours entre la rue et la scène. Et ces allers-retours me permettent de connecter des mondes, de connecter l'institution à la rue, l'institution au quartier. J'apprends des deux côtés. C'est ça qui est formidable. Je dis pas la rue, c'est pas bien. Pas du tout. Enfin, en tout cas, ce que moi j'ai appris dans mon quartier, je mets pas tout à la poubelle. Il y a quand même beaucoup de choses choses qui ont été formidables et qui m'ont aussi aidé à me construire. Mais aussi, on sait l'institution, ce que ça peut apporter d'aller voir un spectacle à l'opéra. Voilà, on sait ce que ça peut provoquer, comment ça peut aussi nous permettre aussi de voir, d'entendre de choses magnifiques qui nous font du bien et qui nous construisent, qui nous aident à nous construire. Donc aujourd'hui, ces allers-retours me permettent de faire rapprocher aussi des publics, à être ensemble. C'est ça aussi qui me plaît, c'est de me dire le défi, c'est qu'un jeune, une jeune ait envie à un moment de pousser la porte de tel ou tel grand théâtre.
Il y a des jeunes des quartiers où vous avez grandi qui viennent frapper à votre porte et pour vous demander conseil ou pour venir peut-être se proposer.
Oui,
il y en a beaucoup.
Bien sûr. Alors quand on fait des auditions pour les spectacles, mais pas que. Quand il m'arrive de faire des interventions dans des écoles, de rencontrer des groupes, des associations, des maisons de quartier. Oui, évidemment, ça c'est des choses qui m'importent aussi à faire. Parce qu'il y a ce que l'on fait dans la chorégraphie, mais il y a aussi les mots qu'on va partager, le temps qu'on va passer avec les uns et les autres, qui est tout aussi précieux. Donc quand je peux le faire, je le fais avec grand plaisir. Voilà, ce que moi j'ai eu la chance d'apprendre, si je peux le partager, le transmettre, je le fais bien évidemment, parce qu'il en va de l'avenir de cette jeunesse.
De temps en temps, vous voyez dans les jeunes que vous rencontrez, vous vous reconnaissez, vous au même âge, vous retrouvez un peu de vous.
Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ah non, je mesure totalement ce qui peut se passer dans la tête du jeune qui a peur, qui doute, qui ne croit pas, je le mesure totalement pour l'avoir vécu moi-même.
Mourad Merzouki était notre invité aujourd'hui dans Les Petits Papiers. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci d'avoir été à l'écoute. Il y a une multitude d'artistes à découvrir dans les épisodes des Petits Papiers. N'hésitez pas à aller faire un tour et n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de tous ceux qui arriveront dans le futur. Et puis, vous pouvez laisser au passage quelques étoiles et commentaires. Ça nous fait toujours plaisir et ça permet à encore plus de gens de nous découvrir. À bientôt.